RCF.
Qui nous fera voir le bonheur? Voilà une belle question que pose le psaume 4 que nous lisons dans cette émission. Et aujourd'hui, l'Ancien Testament vient nous dire que le repos et le bonheur se trouvent en Dieu. Mais est-ce si évident? Pas sûr. Et d'ailleurs, celui qui le chante vient nous dire qu'avant de s'endormir dans la paix, nous passons parfois par des tourments. Et ce psaume 4, Père Gilles Chassé, vous intéressez? Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse d'Annecy, curé sur la paroisse Saint-Marc et sur la paroisse de la Sainte Famille. Vous êtes bibliste, vous avez étudié à Rome et à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Et ce psaume 4, aussi court soit-il, c'est un psaume où sont exprimées beaucoup, beaucoup d'émotions. La plainte, la supplication, l'accusation, la confiance, on va y revenir. Ce psaume, pour vous, est-ce qu'il répond à cette question de qui nous fera voir le bonheur?
Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que celui qui prie dans ce psaume pose la question à ses familiers, à ses proches, à ses amis qui sont en train de vaciller un petit peu. Parce qu'il dit, certains demandent qui nous fera voir le bonheur. Donc il est témoin qu'autour de lui, on se pose la question. Et je trouve que c'est d'une actualité extraordinaire. Autour de nous, on se pose la question. Mais d'où viendra le bonheur, quoi? D'où viendra et on va le chercher. De toute façon, nous sommes faits pour chercher, pour attendre le bonheur et pour le trouver à n'importe quel prix. Alors, on entend cela.
Justement, vous aussi, en tant que prêtre, vous êtes sur deux paroisses. Est-ce que ce sont les questions qui agitent le plus souvent vos paroissiens ou les personnes que vous croisez au fil de vos rencontres?
Tout à fait, même si elles ne sont pas formulées comme ça. Mais
à quoi ça ressemble la question d'aujourd'hui, qui est celle du psalmiste, qui nous fera voir le bonheur aujourd'hui? Comment nous la disons cette question?
Comment nous la disons cette question? Et nous la disons souvent en relisant notre histoire, en relisant peut-être nos réussites et nos échecs, notre situation familiale, notre situation professionnelle, les questions que posent les enfants, les questions que pose l'avenir, les questions du logement, de l'emploi, etc. Et tout cela influe, tout cela a une incidence, tout cela fait se poser la question, mais où est le mieux pour nous? Comment avancer à travers une épreuve? Ce matin, un de mes paroissiens me disait que son épouse était en fin de vie. J'irai la voir pour lui donner le sacrement des malades en présence de son mari. Mais toutes ces questions-là, il y a la question du mal aussi derrière, de la maladie, de la souffrance. Et il y a beaucoup de souffrance autour de nous. Il y a des inquiétudes, il y a la nuit, au sens de ténèbres, nuit du cœur, nuit dans ma vie, nuit. Voilà.
Alors ce psaume, comment est-ce qu'il arrive, j'allais dire, au milieu de ces pages de l'Ancien Testament? Comment il se situe?
Alors, il se situe dans la deuxième partie du psautier. Le livre des psaumes, c'est 5 parties. Et c'est pas sans rappeler les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Il y a une correspondance entre les 5 parties du psaume et les 5 livres de la Bible qui sont l'écriture fondamentale d'Israël, hein, la Torah. Et donc, on est dans avec ce psaume 4 dans le premier livre, hein, qui va des psaumes 1 à 40.
Il y a 150 psaumes.
Il y a 150 psaumes, voilà. 1 à 40, ensuite 41, 71, 72, 88, 89, 105 et 106, 150. Ça fait 5 livres et on a à chaque fois, à chaque finale d'un livre, une petite note, une doxologie en général, qui vient fermer, provisoirement en tout cas, la partie qu'on vient de lire.
Donc là, on est au tout début.
On est au tout début. La thématique globale de ce premier livre, ce serait, on pourrait dire, la nuit, la puissance du mal. Celui qui prie, le fidèle, fait l'expérience du péché, de la solitude, des ennemis, avec des intervalles de douceur et de lumière. Hein, et c'est comme ça jusqu'au dernier livre des psaumes. On retrouve des psaumes d'épreuves et l'acharnement des ennemis et tout ça, jusque proche de la fin du livre. Hein. Donc, c'est sans arrêt des avancées, des allées, des retours, comme la vie, quoi. Mmh. C'est vraiment une expression de la vie. au début, donc, dans ses premiers psaumes, celui qui prie, il prie en son nom, « je ». C'est pas encore nous, le peuple. Il s'adresse pas encore beaucoup à ses frères. Au cœur de ce premier livre, il y a le psaume 21, le psaume de l'homme abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce psaume que le Christ reprend sur la croix, il est dans cette partie-là. Heureux qui trouve en lui son refuge. On a aussi en écho dans au psaume 33, dans ce premier livre des psaumes. Et donc le psaume 4, ben voilà, on est dans ce monde un petit peu ténébreux du début. Il n'y a encore pas beaucoup d'espérance, mais elle est déjà tout de même annoncée.
Alors dans cette émission, on prend souvent la traduction de l'Association épiscopale liturgique pour les pays francophones. C'est ce que l'on trouve sous le nom de l'AELF. Il arrive aussi parfois qu'on cite la Bible de Jérusalem. Vous, Père Gilles Chassé, vous avez une autre traduction qui vous intéresse pour étoffer, pour simplement élargir le regard aussi. C'est la traduction Parole de vie ou traduction en français fondamental. Quelle est cette traduction ?
Mais cette traduction, alors, ça a commencé en Afrique de l'Ouest, où se faisait sentir le besoin d'une traduction de la Bible dans un niveau de langue accessible au plus grand nombre. Donc,
Parce que la traduction classique, je dirais, ne semblait pas accessible ?
Pas tout à fait, parce que ce sont des populations pour lesquelles le français n'est pas la première langue, n'est pas la langue maternelle, mais parfois, souvent la deuxième langue. La langue maternelle étant la langue locale, quoi, la langue dans laquelle on est né. Par définition, parfois c'est même la troisième langue. Donc forcément, le vocabulaire, il est plus réduit. Donc avoir un langage châtié comme celui de la Bible de Jérusalem, autant dire, ça ne veut rien dire, ça ne parle pas. Or, si la parole de Dieu ne parle pas, il y a un souci. Donc les évêques se sont mis au travail avec des équipes en Côte d'Ivoire, je crois que ça a commencé.
En quelle année ?
Après les années 2000, je pense que ça c'est assez récent. Donc avec un vocabulaire volontairement plus pauvre, moins riche dans le vocabulaire, en essayant de dire les choses, mais avec moins de mots, tout simplement, et puis des phrases plus courtes aussi. Voilà.
Alors, je vous propose que vous nous le lisiez, ce psaume, et dans cette traduction, on vous écoute, donc c'est le psaume 4, que vous lisez dans la traduction qu'on évoquait à l'instant, Parole de vie.
Réponds-moi quand je t'appelle, ô Dieu, toi qui me fais justice. Quand j'étais écrasé, tu m'as remis debout. Je t'en prie, écoute ma prière. Vous, les hommes, vous attaquez mon honneur. Vous aimez ce qui ne vaut rien. Vous courez derrière les mensonges. Pour combien de temps encore ? Apprenez ceci. Le Seigneur honore son ami fidèle. Le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. Si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché. Réfléchissez pendant la nuit et gardez le silence. Offrez les sacrifices demandés et faites confiance au Seigneur. Beaucoup se plaignent en disant « Qui nous fera voir le bonheur ?» Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ton visage. Au moment des récoltes, les gens sont heureux. Leur grenier déborde, le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore. En paix je me couche et aussitôt je dors. Car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité.
Bon, voilà de quoi passer une bonne nuit.
Voilà de quoi passer une bonne nuit, c'est le but.
C'est le but parce que c'est lu au complet, ce texte, d'ailleurs.
Il est souvent lu au complet et je crois même que certaines communautés le prennent chaque soir, c'est-à-dire tous les soirs de la semaine au complet.
Alors avant la paix, il y a l'angoisse. C'est vraiment ainsi que démarre le psaume. « Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. » Quelle est cette insécurité, cette angoisse, cette supplication que l'on crie vers Dieu ? Est-ce que ce n'est pas justement souvent en ces occasions que l'on se tourne vers Dieu ?
Oui, et ici en l'occurrence, quand je crie « Réponds-moi, Dieu, ma justice », l'homme fait face à une situation d'injustice. On a été injuste à son égard et il fait appel à Dieu qu'il nomme sa justice, Dieu, ma justice. Ma justice, c'est toi. Voilà. Pourquoi ? Parce que tu me libères et donc écoute ma prière, Dieu. C'est vraiment une lamentation d'un homme. Et on va voir pourquoi il se lamente, parce que la suite du psaume nous le dit. Mais ça commence par cette plainte.
Mais comment penser que Dieu nous libère ?
Eh bien, je dirais dans la foi de cet homme, ayant vu, et certains psaumes le disent par exemple, « Nos pères ont espéré et ils ont été exaucés. Tu leur as répondu, tu les as exaucés. » Eh bien, alors, deux choses. Donc, j'ai confiance, tu me répondras. Ou bien, autre réaction, « Pourquoi, donc, ne fais-tu rien aujourd'hui ?»
Pour moi.
Pour moi, toi qui as fait pour les pères. Hein, voilà. Et donc, on en arrive à cette prière passionnée, ardente.
Puissante.
Puissante.
Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge? Alors, on peut lire aussi le goût du rien, la course à l'illusion. On comprend bien ici la vanité d'une certaine manière. Mais ce qui m'intéressait, c'est l'expression « fils des hommes ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
Fils des hommes, c'est une manière de dire, de s'adresser à quelqu'un. Fils des hommes, vous n'êtes pas des anges, vous n'êtes pas des fils de Dieu, en tout cas, votre agir ne le montre pas. Vous êtes bien humain, et là, aussitôt, voyez, à ce verset 3, il est déjà sorti de sa prière. Il n'est plus en train de parler à Dieu. Quand je crie, réponds-moi à Dieu. Non, il s'adresse tout de suite. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été au cœur de la prière. Il sort de sa prière et il va s'adresser à ses ennemis en disant « Vous m'avez porté atteinte, vous m'avez fait du mal. Et donc, jusqu'à quand ? Voilà, moi, aujourd'hui, je vous accuse. »
Donc, fils des hommes, c'est ceux qui oublient Dieu, ce sont ceux qui contrarient les desseins de Dieu.
Ce sont ceux qui contrarient d'abord l'homme dans sa vie. Ce sont ses adversaires. Il s'adresse alors il les appelle fils des hommes. J'y vois pas forcément d'expression théologique particulière. Simplement, fils des hommes, fils d'Adam, humain, avec tout votre poids, toute votre capacité à faire du mal à moi.
Et alors le néant, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un amour du néant, un goût du rien ? Pourquoi est-ce que invariablement, selon les époques, on porte un intérêt à des choses qui n'ont pas de prix ?
Mais je crois que c'est le résultat de ces actions. C'est-à-dire, ça ne donne rien. C'est voué à l'échec. On fait parfois des tas de choses en pensant qu'elles vont apporter beaucoup, qu'elles vont rendre heureux. Et puis finalement, on se rend compte, comme quelqu'un qui a amassé beaucoup dans sa vie. Je connais des personnes qui ont beaucoup amassé. On est dans une région assez riche. Beaucoup de gens chez nous travaillent en Suisse. Les salaires là-bas sont assez élevés. Et puis, ça peut devenir même une sorte de religion pour certains. Mais tout ça, à quoi bon ? Le vide, d'ailleurs, la Bible le dit très souvent, à quoi bon amasser des richesses ? N'y mettez pas votre cœur, surtout. Ou bien Jésus dans l'Évangile, avec l'argent, faites-vous des amis. Et ça sera déjà pas mal. Et puis, donc, du vide, du néant. Dans l'Ancien Testament, on a le livre de l'Ecclésiaste qui commence par « vanité des vanités, tout est vanité ». C'est-à-dire, vanité, c'est le mot ce qu'on a traduit par vanité, c'est buée. C'est le, vous voyez, la buée qui, le matin, s'évapore du sol, monte et puis plus rien.
Mais ces illusions, elles nous attirent.
C'est toute la capacité de. C'est
toute Il y a une la course.
Tout à fait des richesses. Et puis, on a au cœur, de toute façon, un désir de possession, de propriété, qui est au service de notre orgueil. De toute façon, le désir de faire aussi bien, de vouloir mieux, plus que les autres, que le voisin, c'est au cœur de l'homme, c'est au cœur de notre humanité. Le souci, c'est que ça porte atteinte à quelqu'un. Et ce quelqu'un est en train de se plaindre. Mais ce n'est pas un timide, C'est pas quelqu'un qui fait que se tourner vers Dieu, aide-moi Seigneur, mes ennemis m'en veulent, etc. Non, il s'adresse à eux, fils des hommes, vous les humains là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vous accuse, hein? Jusqu'où irez-vous?
Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Il prend un témoin aussi, Dieu.
Alors,
qui...
voilà.
On est au verset 4.
On est au verset 4. Et ça, c'est remarquable. Parce que, ayant accusé, il arrête de les accuser. Il leur dit, sachez, moi je vais vous dire. Et il se fait prédicateur un petit peu. Et donc il change, vous voyez, il change. Il a été d'abord un priant, ensuite un juge, un accusateur, et maintenant il se fait celui qui enseigne. Sachez, hein, que le Seigneur a mis à part son fidèle. Et là, le mot traduit par fidèle dans la traduction liturgique, chouraki traduit par adorateur. Sachez que il a mis, on peut traduire par le saint, a mis à part celui qui est saint à ses yeux. Et voilà la note que dit Chouraki. Il faudrait dire l'homme de grâce. Connotation de don joyeux, amoureux et actif de tout son être en quête de grâce divine. Voilà, celui qui se plaint, celui qui accuse ses adversaires, il est l'homme de grâce. Il est l'homme qui a reçu la grâce, il est l'ami de Dieu. On peut traduire par fidèle. C'est cette qualité qu'on appelle la recède en hébreu qui a fait le juste, le chassid, qui est celui qui a contracté une alliance d'amitié et qui est fidèle. Donc là derrière, il y a de la bienveillance, de l'amour, de la bonté, de la faveur, de la fidélité, de la pitié, de la miséricorde. Il y a tout ça dans ce mot qui est très riche. Celui qui est fidèle dans ce sens-là. Moi, je veux vous le dire, sachez que le Seigneur m'a mis à part. Il a mis à part son fidèle.
Mais c'est aussi une exhortation à demander le secours.
C'est aussi une bien sûr, parce que celui qui a conscience d'être porteur de la grâce de Dieu a conscience aussi de sa fragilité, a conscience qu'il a besoin d'être soutenu, d'être aidé par le Dieu qui lui donne sa grâce. Parce que sa grâce n'est pas un bouclier contre les atteintes des ennemis. Il aura autant d'épreuves, parfois même plus, que bien d'autres qui ne sont pas croyants comme lui.
Et alors, demander le secours, ça se fait dans le secret, dans le silence, dans le cœur.
Oui, il y a une progression là encore dans ce psaume. D'abord, il leur dit « sachez ». Voilà, la prédication. Ensuite, il leur dit « tremblez ».
Verset 5. « Tremblez, ne péchez pas ».
Tremblez, ne péchez pas. Tremblez devant la majesté, la puissance de Dieu. Trembler devant sa force. L'Ancien Testament a une page énorme avec la crainte de Dieu, avec le Dieu des théophanies sur la montagne qui se manifeste dans la tempête et l'orage. Bon, c'est des illustrations, mais la crainte de Dieu, elle est vraiment présente au cœur de la piété d'Israël. C'est un sentiment de base. Trembler donc. Après, ne péchez pas. Voyez votre agir. Regardez comment vous agissez. Ne portez pas atteinte à Dieu. Alors ça fait déjà, bon, sachez, tremblez, ne péchez pas, on est à trois. Réfléchissez dans le secret, il faut être seul pour vous faire votre opinion. Relisez, peut-être parlez-en à d'autres, peut-être, mais à un moment, discernez dans votre solitude ce qui va être important. Et faites silence, silence, voilà. Il y a un moment où le bruit, les mots doivent cesser. Faire silence et ensuite offrez les offrandes justes ou offrez des sacrifices. Offrez des sacrifices, donc c'est toute la partie rituelle, le culte à rendre à Dieu. Il ne s'agit pas de commencer par les sacrifices. Ça vient après tout ce cheminement. C'est intéressant parce que le rite, aller à la messe, ça ne fera pas tout. S'il n'y a pas eu avant ces démarches de remise en question, de relecture personnelle, s'il n'y a pas eu avant cette expression aussi, ben oui, Dieu, tu es tout puissant, et qui suis-je pour agir de la sorte,
Voilà. Au fond, on a là tout un programme d'une relation à Dieu. Comment construire une relation à Dieu? On a parfois cette question, vous devez sûrement l'avoir. Oui, moi j'aimerais bien croire en Dieu, mais je ne sais pas comment faire. Ce verset 5 que vous venez de décrire nous donne le programme d'une relation à Dieu. Comment le trouver, comment le rencontrer, comment l'écouter. Et comment lui faire confiance aussi?
Oui, ça se termine avec faites confiance. Hein, faites confiance au Seigneur. Voilà. Une fois que vous en êtes là, vous pouvez faire confiance. Vous ne risquez plus rien. Vous avez fait le travail qui est nécessaire.
Ça donne aussi à l'homme sa propre responsabilité sur son agir, comme vous le disiez. D'abord, commencer par soi-même, se poser comme homme, tout simplement, sur les actions que nous menons.
Tout à fait, ça commence comme ça. Ça commence par, voilà. Voilà ce qu'il faut savoir. Voilà ensuite l'attitude religieuse, entre guillemets, à avoir. Ensuite, vérifier ses actes, aller se confesser si c'est nécessaire, si on a péché par exemple. Avoir discerné quel mal on avait fait à nos frères, à nous-mêmes, à Dieu, etc. Et puis ensuite, les offrandes et la confiance. Et puis ça se termine là, au verset 6. Là, on a une rupture.
La suite, c'est le verset 7. Alors vous dites, on a une rupture parce que la suite, elle est cette question qu'on évoquait en début d'émission. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage.
J'aime bien la clairvoyance, finalement, de ce fidèle qui prie, là. Il est quand même ouvert sur le monde et sur les autres. Il entend, il prend les informations. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Autour de moi, beaucoup demandent. Voilà. Et ça, je trouve que c'est assez juste comme attitude. C'est-à-dire, je ne suis pas centré finalement. Sachez que le Seigneur m'a mis à part. Le Seigneur a mis à part son fidèle. Il vient de le dire. Mais attention, il ne l'a pas mis à part forcément pour l'isoler au désert, dans une grotte, ou bien dans un ermitage, ou bien même dans une communauté religieuse ou monastique. Il ne l'a pas mis à part de cette façon-là, forcément. Il l'a laissé dans le monde. Alors dans le monde, eh bien, qu'est-ce qu'il entend? Tous ceux qui demandent qui nous fera avoir le bonheur. Et ça, on peut la traduire de mille façons, cette question, hein, qui nous fera avoir le bonheur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Qu'est-ce que le bonheur aussi?
Puis qu'est-ce que le bonheur, hein? Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que le bonheur, c'est celui qu'on essaye de me vendre, hein, dans les médias, qu'on essaye de me proposer, que mes amis sur les réseaux sociaux, etc., envisagent pour eux? Est-ce que je ne ferais pas bien de m'en inspirer ou... Et il y a cette recherche.
La joie que le Christ propose n'est pas toujours celle qui est en une des journaux, en effet, ou très valorisante, peut-être. La joie à servir, la joie à consoler, elle n'est pas toujours celle qui est à la mode.
Tout à fait. L'Évangile aura toujours ce côté tranchant, hein, par rapport à ce qui est convenu, vous voyez, à ce qui est habituel, à ce qu'on entend, au slogan. Il y aura toujours un côté séparé. C'est pour ça que la mise à part, hein, le Seigneur a mis à part son fidèle, on pourrait dire le Christ a mis à part ses fidèles. Mais une mise à part très particulière parce qu'elle ne retire pas du monde cette mise à part. Au contraire, elle nous y fait demeurer, mais seulement avec comme espérance, une espérance que le Christ est venu nous donner. Il nous fait espérer vivre de sa présence, vivre en communion, vivre en fraternité, et nous donne d'espérer la vie dans la lumière de Dieu, avec le visage que s'illumine ton visage, Seigneur. Hein, c'est-à-dire pour aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité.
Ça veut bien dire que ce n'est pas si simple d'aimer ce qui est invisible, ça veut bien dire que ce n'est pas évident de se tourner vers son intériorité, que ce n'est pas la première démarche, peut-être.
Je crois qu'il faut y être appelé, il faut y être interpellé. À son intériorité. Non, ça ne va pas de soi. Encore que je note qu'autour de nous, l'intériorité, la spiritualité, on appelle ça la spiritualité, ça prend toutes les formes. Il y a aussi beaucoup de néant, à mon avis, là-dedans, beaucoup de choses creuses, c'est clair. Mais la recherche est là. Elle est légitime pour tout le monde. Tout le monde a le droit de se poser cette question. Et le devoir même de son intériorité, de cette demeure intérieure dont il faut prendre conscience, hein, en s'échappant un petit peu de ce quotidien qui nous retient, hein, qui nous empêche pratiquement souvent, qui fait obstacle à ce regard sur l'intériorité. Mais c'est simple, il suffit parfois de sortir, de regarder une fleur et puis juste de s'arrêter et puis de stopper le petit cinéma intérieur et les ruminations, les agitations qu'on peut avoir en nous, mais voilà, et cette intériorité là, c'est un chemin, c'est une première étape.
Ça revient à répondre à la question sur quelle joie nous choisissons aussi. Tu as mis en mon cœur plus de joie qu'au jour où leur froment et leur vin nouveau débordent, plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. C'est une joie vers laquelle on choisit de se tourner aussi, qui est celle de la vérité.
Tout à fait. Une joie intérieure, un don de Dieu direct qui va au-delà de la joie que peut donner des vendanges et des moissons. Ce n'est pas condamné dans le psaume, vendanges et moissons. Ce sont les récoltes, c'est ce qui fait vivre. C'est bon. Mais la joie qu'on reçoit dans ces bontés qui nous sont données, il y a une joie supérieure qui est « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au moment où on se réjouit pour la moisson, au moment où on se réjouit des récoltes et de la fête et de tout ça. » Et c'est déjà une joie considérable quand on fête ce que la nature nous a donné pour vivre, qui va nous permettre d'aborder l'avenir dans de bonnes conditions. On s'en réjouit et on le fête. Et le vin coule à flot. Eh bien, il y a une joie encore plus grande que celle-ci. Tu mets dans mon cœur plus de joie que tout cela.
Alors cette joie, elle conduit à la paix, et ce sera le dernier mot de cette émission. En paix, tout aussitôt, je me couche et je m'endors. Qu'est-ce que ça nous dit aussi sur le sommeil ?
Alors, c'est un des deux grands symboles de ce psaume. Le Seigneur m'a mis au large. Et puis, le deuxième grand symbole, c'est celui du sommeil. L'expérience d'un sommeil facile, d'un sommeil facilité. On n'a pas besoin de somnifères quand on est dans cette confiance, en principe. Mais ça s'approfondit un petit peu parce que ça contraste avec l'insomnie des adversaires. Parce qu'il dit « Tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. » C'est-à-dire que les autres, n'étant pas dans la confiance, eh bien, voient leur vie, voient leur jour et leur nuit perturbés. Seul, celui qui est le fidèle selon ce psaume, il se couche dans la paix et il dort. Voilà. Donc le sommeil comme expression assez réussie, je trouve, d'une confiance. Dormir en paix, c'est le sommeil d'un enfant, traversé d'insouciance. Voilà. Et cela, c'est possible, ça nous est promis. Et puis, comme tout grand symbole, il y a une ambivalence, il y a une autre polarité, c'est le sommeil qui peut être aussi le sommeil de la mort, qui est souvent aussi décrit dans la Bible. Le bien-aimé s'est endormi. On parle du Christ, et il traverse cette mort pour ressusciter. Il y a cette ambivalence dans le symbole du sommeil. Ici, je le vois comme plutôt l'expression de la confiance.
Un beau psaume sur l'abandon. Merci beaucoup, Père Gilles Chassé. C'est le psaume numéro 4 à retrouver dans l'Ancien Testament. Je rappelle que vous êtes bibliste et prêtre du diocèse d'Annecy.
Merci.
Bonne semaine.
Merci.